Ok, on continue notre série sur le survol des 66 livres de la Bible. On est rendu au livre des psaumes. Alors, comme on le fait toujours dans chacune de nos leçons, la première leçon est toujours une présentation très générale du livre, dans lequel on regarde l'arrière-plan du livre et son but principal, le plan. On a fait un petit plan de l'ensemble du livre. On regarde aussi quelques thèmes, les thèmes majeurs qu'il y a dans le livre des psaumes, les personnages clés, les versets clés, les leçons pour le peuple de Dieu d'alors et aussi pour le peuple de Dieu d'aujourd'hui, et aussi dans le livre des psaumes, la place et la présence de Jésus-Christ. Alors, ce qu'on va commencer à faire, c'est de faire quelques observations préliminaires sur les psaumes. Alors, depuis toujours, les chrétiens se sont intéressés au livre des psaumes plus qu'à tout autre livre de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament le cite fréquemment et y fait allusion. Les chrétiens voient aujourd'hui dans ce livre le cœur de l'Ancien Testament. Il est stimulant, tant sur le plan intellectuel qu'émotionnel. La piété du livre, qui trouve son origine dans une relation personnelle intense avec Dieu, touche une corde sensible chez les hommes et les femmes d'aujourd'hui. Dans le psautier, on se sent chez soi. Le nom français du livre provient de la Septante, qui utilisait le mot « psalmos » comme titre, qui est la traduction de l'Ancien Testament en grec par les Juifs de la diaspora. Le mot grec fut utilisé pour traduire l'hébreu « mizmor », qui vient de la racine verbale « zamar », qui veut dire « chanter » ou peut-être « jouer d'un instrument à cordes ». Et ça établit un lien entre le livre et la musique. Le titre hébreu, c'est « Tehillim », et ça signifie « louange », et ça met en avant ce qui est la note dominante du livre. Alors, des images ont été utilisées pour refléter sa richesse et sa beauté. On dit par exemple du livre des psaumes, c'est un lac limpide, reflétant chaque humeur changeante de l'homme. On dit aussi, c'est une rivière de consolation, réjouissant et encourageant le défaillant. On dit aussi que c'est un jardin de fleurs, ne perdant jamais leur arôme. On dit aussi que c'est un instrument à cordes, traduisant tout sentiment de louange, de prière, de triomphe, de trouble, de joie, de tristesse, d'espoir, de peur, et qui réunit toute la gamme multicorde de l'expérience humaine. Leur première grande valeur est de pourvoir un guide à nos émotions et à nos sentiments. Ils ont joué un rôle primordial dans la vie spirituelle du peuple de Dieu. Les Hébreux de l'Ancien Testament les utilisaient dans leur adoration au temple. Les Juifs d'aujourd'hui les utilisent dans leur synagogue. Les chrétiens du Nouveau Testament les chantaient, comme on peut le voir par la mention dans Colossiens chapitre 3, verset 16, et aussi dans le livre de Jacques au chapitre 5, verset 13. Et toutes les dénominations de la chrétienté les utilisent aujourd'hui. Ils sont aussi précieux aux chrétiens individuellement parce qu'ils sont tentés et éprouvés pour retrouver le courage, lorsqu'ils sont souffrants pour trouver de la consolation et du réconfort, lorsqu'ils sont persécutés pour retrouver de l'assurance, lorsqu'ils sont repentants pour retrouver la paix et le pardon. En un mot, la respiration même du ciel se trouve en eux. En passant, s'il y en a qui sont intéressés à avoir, ceux qui lisent l'anglais, là, un excellent commentaire sur le livre des psaumes, c'est « The Treasury of David », qu'aujourd'hui on peut avoir pour des peanuts, comme on peut dire. Il coûte vraiment pas cher, 3 volumes d'à peu près 700-800 pages chacun. Je pense que tu peux les avoir pour en bas de 50$. Puis c'est Spurgeon qui a écrit ça à la fin de sa vie. Et il a ramassé à peu près, dans toutes ses lectures, il y avait 15 000 livres dans sa bibliothèque. toutes ces des observations qu'il a prises chez un, chez l'autre, et il nous donne tout ça, là, c'est une richesse inouïe. Alors, ceux qui lisent l'anglais, je le recommande extrêmement fortement. La deuxième observation qu'on va regarder, c'est les différents éléments du livre. Donc, l'arrière-plan. L'auteur, c'est une collection. 73 livres sont attribués à David, 12 à Asaph, 11 par les fils qui sont les descendants de Corée, 1 à Héman, 1 à Étan, 1 à Moïse et 2 par Salomon, et 49 sont anonymes. La date de composition, alors les hymnes remontent très haut dans l'histoire de l'humanité. La poésie précède la prose dans la littérature. Notre plus ancien psaume date du 15e siècle avant Jésus-Christ. La plupart d'entre eux, des 11e et 10e siècle avant Jésus-Christ, le psaume reflète le temps de l'exil, 6e siècle avant Jésus-Christ. Les psaumes 114, 119 et 126 sont post-exiliques, donc à la fin du 6e siècle avant Jésus-Christ. Donc, si on regarde ça comme fausse, la composition de ce livre s'échelonne donc sur une période d'un millénaire. Autrement dit, le livre des psaumes, ça a pris 1000 ans avant que ça soit écrit, que ce soit complet, parce que ça a été écrit par tous ces personnages-là à des périodes différentes. Donc, la période historique, qu'on pourrait dire, où que le livre des psaumes a été écrit, ça couvre la période de 1020 à 430 avant Jésus-Christ. Le cadre, c'est vraiment le cadre historique des psaumes, c'est l'histoire du peuple d'Israël. Le but principal du livre des psaumes, quand le cœur déborde de joie ou de douleur, l'homme a besoin d'en épancher le trop-plein par des paroles ou des cris. Les psaumes sont de tels cris d'hommes adressés par des croyants à Dieu et en second lieu aux autres amis ou ennemis. Que c'est donc vrai, quand on lit le livre des psaumes, on a beaucoup de plaisir. Alors, les psaumes donnent expression à tout ce qui est en nous. Ces 150 poèmes sont 150 miroirs de nos révoltes et de nos fidélités, de nos agonies et de nos résurrections. Les psalmistes transforment tout cela en prière, plus en prière inspirée par l'Esprit. Nous pouvons donc être assurés qu'elles sont conformes à la volonté de Dieu et prêtes à être exaucées. Si nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, comme le dit Romains 8, 26. Et quand Dieu nous donne les psaumes, il nous enseigne à prier avec ferveur, à souffrir avec patience, à mettre son espoir en Dieu, à le craindre, à l'aimer, à le bénir et à le louer sans cesse. J'ai un livre à maison en passant. Il y a un pasteur qui recommande très fortement d'utiliser les psaumes comme modèle de prière. Et il nous donne comme une recette, disons pour un mois, là, lis tel psaume, tel psaume, tel psaume, tel psaume, et en les lisant, prie ce qui est à l'intérieur. Puis là, c'est sûr que c'est la volonté de Dieu parce que c'est inspiré. C'est une excellente suggestion. Pour apprendre à bien prier, disait Tommy Fallot, rien de tel que les psaumes. Lorsque votre cœur est plus sec qu'une rivière sans eau, que vous voulez prier, et que vous n'y parvenez pas, prenez votre Bible, cherchez un psaume qui convienne à votre situation, lisez-le lentement. Répétez-le en vous servant des paroles que vous prononcez pour y envelopper vos propres requêtes. Voilà plus de 35 ans que j'utilise ainsi des psaumes. Dans quelque état d'âme que je me sois trouvé, ils ne m'ont pas laissé sans secours. Beaucoup de psaumes ont été composés pour le culte. Ils étaient généralement chantés en chœur antiphoné par deux groupes de Lévites, ou par les Lévites et l'Assemblée qui reprenaient le refrain, comme par exemple dans le psaume 136, qui souvent répète la miséricorde du Seigneur, souvent ça revient. Donc c'était chanté, c'était antiphoné, je me souviens bien, on a un musicien ici, c'est que C'est comme une chanson à répondre. Hein?
Ben, je ne connais pas ce terme-là, là, mais psaume 136, tu parles de ça, quand on lit, ça a l'air de ça. Là.
OK. En tout cas. Alors, les psaumes dits imprécatoires posent problème pour certains. Comment pouvons-nous demander à Dieu la destruction de nos ennemis, par exemple dans le psaume 35, le psaume 55, qu'ils aient les dents cassées, le psaume 58, les yeux aveuglés, et voient leurs enfants massacrés, alors que nous avons appris à aimer nos ennemis, selon le Seigneur dans Matthieu 5, 44. Nous pouvons certes opposer à ces expressions le « mais moi, je vous dis » de Jésus, comme l'expression d'une révélation plus complète de la volonté de Dieu notre égard. Toutefois, souvenons-nous que toutes ces paroles sont des prières. David, qui les a formulées, n'a jamais agi contre son ennemi, même lorsqu'il le tenait à sa merci. On se souvienne quand il était persécuté par... Il a eu ses ennemis souvent à sa portée, puis il n'agissait pas, comme on dit. Il a certes demandé sa mort, mais après la mort de Saül, il a agi avec bonté envers ses successeurs. Deuxième observation, il faut distinguer ton et contenu. Le ton participe à la véhémence de la poésie orientale et aux hyperboles coutumières dans ce genre littéraire. Par les paroles, le sémite décharge le trop-plein de sentiments que l'événement a suscité. Sa colère se défoule sur le plan verbal. Mais Dieu regarde au cœur et aux actes. Troisième observation, le psalmisme identifie ses intérêts avec ceux de Dieu. Généreux envers ses ennemis personnels, David est implacable envers ceux de Dieu et de son peuple. Il fait corps avec ceux qui souffrent injustement. Quatrième observation, il est réaliste. Il sait que l'établissement de la justice doit passer par le châtiment des coupables. Le Nouveau Testament lui-même ne dissocie pas instauration du règne de Christ et punition de rebelles. Troisième chose qu'on va regarder, le plan du livre des psaumes. Le psautier est divisé en cinq livres, peut-être en analogie avec les cinq livres du Pentateuque, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Chacun d'eux est terminé par une doxologie. Une doxologie, ça veut dire tout simplement une louange à Dieu. Le livre 1 contient quatre psaumes anonymes. Les 37 autres sont de David. Le nom de Dieu utilisé est Yahvé, donc l'Éternel, le Dieu de l'Alliance, et ça domine dans tout le livre. Dans le livre 2, les 8 premiers psaumes sont des fils de Corée, 20 sont de David, 1 de Salomon, 1 d'Asaph et 4 sont anonymes. Ce livre emploie beaucoup le nom d'Élohim pour désigner Dieu. Juste cette observation-là, que dans les psaumes, dans certains psaumes, c'est Élohim, dans d'autres psaumes, c'est le Dieu de l'Alliance, c'est très riche comme enseignement, si on porte attention. Là. Tu vois, on lui sort, on ne porte vraiment pas attention, mais c'est très significatif, ça, que le nom de Dieu utilisé dans tel livre ou tel livre est important. Dans le livre 3, nous trouvons 11 psaumes d'Asaph, 4 des fils de Corée, 1 de David et 1 d'Étan. Les livres 4 et 5 contiennent surtout des psaumes anonymes. À la page 6, je vous ai mis un plan que vous pourrez regarder chez vous si jamais vous lisez le livre, dans lequel je vous ai mis les numéros des psaumes, le livre 1, le livre 2, le livre 3, le livre 4, le livre 5, avec leur auteur, le nombre de psaumes qu'il y a dans le livre, son contenu principal, la ressemblance qu'il peut y avoir aussi avec le livre de la Pentateuque. On disait que ça correspondait avec les livres de la Pentateuque. Et la doxologie finale et les dates de compilation. À la page 7, on a les thèmes majeurs du livre des psaumes. Une des choses intéressantes comme thème du livre des psaumes, c'est que le Seigneur règne, donc le thème de la souveraineté de Dieu. C'est une affirmation constante du livre des psaumes. Dieu est le grand et glorieux souverain qui exerce sa domination sage et juste sur absolument toutes les choses. Donc les psaumes 47, 93, 95 et 99 offre de magnifiques exemples de cela. Deuxième thème, celui de la création. Voici un exemple parfait que Dieu règne sur toute la création. Dieu a tout créé et soutient tout par sa puissance, sa sagesse et sa justice. Psaume 29, psaume 93, psaume 104. Autre thème, le salut. Le Seigneur règne parce qu'il a déjà vaincu le mal et qu'il a racheté son peuple. Psaume 47, 68, 98 et 114. Le thème du jugement. Le Seigneur règne parce que son jugement est sage, juste et éternel, universel. Psaume 50, 82, 94, 96, 97, 105. Aussi le thème du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu est son pâturage et le troupeau que sa main conduit. Dieu l'a racheté et a continuellement intervenu dans son histoire avec puissance et grâce. Et aussi le thème de le roi. Dieu utilisait les rois pour accomplir ses buts. Vers la fin du livre des Psaumes, l'accent est mis sur le roi futur qui viendra pour restaurer et racheter Israël. Le grand roi promis, le Messie, devient l'espérance. Quelques versets clés. C'est sûr que quand on fait un survol comme ça, on marque deux, trois versets comme versets clés, mais dans le fond, c'est un livre extrêmement riche. On fait juste donner des... Alors, le psaume 8, verset 2. Je me souviens quand on faisait l'école du dimanche aux enfants de 12 ans, c'était un psaume qu'on leur faisait apprendre par cœur. Il y a une petite fille, je me souviens encore, la petite Rouillard, là, qui, elle avait appris le psaume 8, elle récitait ça, là, c'était toute beauté de l'avoir récité ça. On lui demandait de les apprendre par cœur, des fois, ils ne savaient même pas nous autres mêmes. Alors, psaume 8, verset 2. « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. » Psaume 23, qui ne connaît pas le psaume 23? Psaume 23, cantique de David. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Psaume 51, versets 1 à 3. Au chef des chants, psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » Psaume 100, versets 1 et 2. Psaume de louange. « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. » Psaume 121, versets 1 et 2. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. On va regarder maintenant les leçons qu'il y a pour le peuple de Dieu d'alors, ceux qui vivaient à l'époque de l'Écriture et ceux et les enfants de Dieu d'aujourd'hui. Alors, Dieu a promis d'être avec son peuple. Durant les moments de souffrance et de trouble, il apparaît toujours aux enfants de Dieu à tourner sa face contre eux. Cependant, les prières, les lamentations, les louanges de son peuple démontrent que Dieu a toujours été fidèle à sa parole. Il répond aux requêtes de son peuple parce qu'il est bon, rempli de compassion et infiniment bon. Le Messie est la réponse de Dieu aux problèmes des hommes. Maintenant, les leçons pour le peuple de Dieu d'aujourd'hui. Le Messie est venu et a vaincu Satan, le péché et la mort. Cependant, nous continuons de vivre dans un monde rempli d'épreuves, de tentations et de souffrances. Le livre des Psaumes nous invite à faire confiance à Dieu, à nous rappeler qu'il est toujours présent, qu'il règne sur toutes choses et qu'il interviendra et répondra en son temps à tous nos besoins. Maintenant, un autre terme qu'il y a, c'est la place et la présence de Jésus-Christ dans le livre des psaumes. À travers les péripéties de la vie, de sa vie, le psalmiste a souvent préfiguré la destinée du juste par excellence, c'est-à-dire du Messie. Ainsi, beaucoup de psaumes sont en même temps des prophéties. Comme tout bon juif, Jésus a prié depuis son enfance, les psaumes qui tracent prophétiquement les étapes marquantes de son ministère. Sa prédication en parabole, la haine dont il serait l'objet, ses souffrances, sa résurrection, sa gloire et son avènement futur. Alors, vous avez toutes les références là, où on parle des différents aspects du rôle de Christ et qu'il viendrait sur la terre. C'est de la prophétie. Il les a cités maintes fois dans des situations critiques. J'ai mis les références. Il a rendu témoignage à leur inspiration divine dans Marc 12, verset 36. Il les a chantés et priés jusqu'à son dernier souffle. Si vous vous souvenez, le psaume 22, quand vous lisez le psaume 22, là, où il dit, où c'est vraiment un psaume qui décrit les souffrances de Christ sur la croix. C'est très intéressant de lire ce psaume-là en pensant à l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Depuis lors, l'Église chrétienne les prie avec lui, ou, selon la formule chère à l'apôtre Paul, en lui, car il a pris sur lui nos luttes, nos détresses et nos péchés. Après sa résurrection, il a rappelé à ses disciples ce qu'il leur avait déjà enseigné avant sa mort, à savoir que tout ce qui était écrit de lui dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes devait s'accomplir, comme on le dit dans Luc, chapitre 24, verset 43. Comme application, chaque psaume contient une pertinence, une application et une bénédiction pour le chrétien. Dans leur ensemble, les psaumes expriment les aspirations de l'âme humaine. La poésie est adaptée pour être chantée avec l'accompagnement de la harpe ou de la lyre. Cette poésie est avant tout l'expression de sentiments profonds. Elle s'enracine dans la nature émotionnelle de l'être humain. Elle est moins le résultat de la raison que celui du cœur, moins la création de l'imagination que celle des émotions profondes. Il y a des psaumes pour toutes les circonstances de la vie et pour toutes les conditions spirituelles. Ils constituent un fondement idéal pour la vie de piété personnelle. Il n'est aucune expérience du chrétien qui ne soit présente dans le recueil des psaumes. Le lecteur y découvre tour à tour l'expression de la détresse, de l'angoisse, de la peur, de l'espérance, de la joie, de la confiance, de la reconnaissance, de la consolation, de la consécration à Dieu, de la repentance du péché, et de la joie en réponse à la compassion, du pardon et de la paix de Dieu. Tous ces cantiques poursuivent un but spirituel, élever l'esprit au-dessus des contingences de ce monde, inciter le cœur à se tourner vers Dieu, inspirer la confiance en l'Éternel, apporter la consolation dans les moments d'épreuve et d'affliction, orienter le regard vers une vie meilleure qui attend le peuple de Dieu. Par ces poèmes lyriques, les adorateurs de Dieu entendent des vérités qui émeuvent l'âme, des vérités prononcées avec des mots qui percent les oreilles, mais parfaitement adaptées à leurs émotions et imprimées dans leur conscience où les plus puissantes sanctions de la vie et de la mort présentes et éternelles les fixent. Les psaumes fournissent à l'Église de Dieu ses prières les plus sublimes et ses louanges les plus enthousiastes. Il y a une prière pour toute situation dans laquelle le chrétien peut se trouver. Que l'Éternel soit loué pour nous avoir donné les psaumes. Méditons-les souvent par sa grâce et pour sa gloire.